et j'accueille avec plaisir Roxane de La Sablonnière. Bonjour Roxane.
Bonjour Hélène.
Pour la psychologie sociale, Roxane est professeure titulaire au département de psychologie à l'Université de Montréal et directrice du laboratoire sur les changements sociaux et l'identité notamment. Et aujourd'hui, c'est une sorte de suite à une chronique que vous avez faite antérieurement, évidemment, l'acculturation et l'intégration des immigrants et immigrantes dans la société.
Oui, Hélène, et j'ai préparé cette chronique avec Frédéric Delisle, qui est bachelière en psychologie à l'Université de Montréal, puis qui travaille au sein de notre laboratoire pour le moment. Donc, j'aimerais reprendre où nous étions laissés le mois dernier lorsque nous parlions de l'intégration des immigrants et des immigrantes dans la société. Pour un bref rappel, on avait abordé la notion d'acculturation, qui est un processus par lequel une personne va acquérir une nouvelle culture. Je vous avais donné l'exemple d'une réfugiée syrienne ou russe qui pourrait se sentir de plus en plus québécoise avec le temps qui passe, au fil des années, suivant son arrivée au Québec. Donc, nous avions abordé, discuté quatre stratégies d'acculturation, puis on s'était dit que l'idéal, la stratégie idéale qui amène le plus de bien-être chez les gens, c'est celle de l'intégration. Donc, c'est quand on est en contact avec nos deux cultures, soit la culture d'origine et la nouvelle culture. Par contre, je n'avais pas abordé comment on arrive, quel est le processus qui fait en sorte qu'on arrive à cette étape de l'intégration qui nous amène plus de bien-être. C'est important de parler de ça parce que on a remarqué dans la recherche que lorsqu'on avait un pays ou une communauté qui avait une vision plus inclusive, par exemple l'interculturalisme au Québec ou le multiculturalisme au Canada, bien, il y a plus de tolérance, il y a moins de discrimination, puis évidemment, les immigrants et les immigrantes ont plus de bien-être aussi. Et puis, ça m'a fait penser à cette expression de l'empereur Lothaire, « Tempora mutantur, enos mutantur inelis », qui signifie « les temps changent et nous changent par la même occasion ». Donc, ce que ça dit, c'est qu'au fil du temps, de nos contacts avec les autres, notre identité est amenée à changer, et particulièrement pour les personnes immigrantes. Donc, je vais aborder une théorie que j'ai développée avec ma collègue Catherine Amiot de l'UQAM, qui explique comment on se rend à cette fameuse stratégie de l'intégration, puis comment on peut aussi réussir à préserver notre culture tout en intégrant une nouvelle culture.
J'avais oublié d'ouvrir mon micro. Qu'est-ce que cette théorie nous permet de comprendre, Roxane?
En fait, elle nous permet de comprendre ce fameux processus-là qui nous mène à l'intégration. Et puis, principalement, elle a quatre étapes. La première étape, on l'appelle l'anticipation. C'est pas tout le monde qui va vivre cette étape-là parce que c'est une étape qui se produit lorsqu'on planifie, par exemple, d'émigrer dans un autre pays. Ce qui arrive, c'est qu'on projette nos propres caractéristiques, qu'elles soient personnelles ou de notre groupe, au nouveau groupe. Donc, on va s'imaginer un peu comment l'autre groupe va être. Donc, une femme colombienne, avant d'immigrer ici, elle pourrait se dire que les Québécois sont hyper accueillants, tolérants, un peu comme elle, un peu comme les gens qui appartiennent à sa propre culture.
Ça ne correspond pas nécessairement à la réalité.
Non, bien, c'est ce qu'on va découvrir dans la prochaine étape. Donc, la deuxième étape, c'est la catégorisation. La catégorisation, c'est une étape où les caractéristiques de notre propre identité culturelle, donc d'origine, deviennent extrêmement distinctes, saillantes. C'est un peu un tout ou rien ou un nous ou eux. Ici, par exemple, la femme colombienne qui arrive au Québec, elle pourrait rapidement percevoir que les deux cultures ou les deux identités sont très différentes parce qu'elle est confrontée à l'existence d'un nouveau groupe. Donc, son identité d'origine devient saillante, plus importante. Donc, elle pourrait se dire, par exemple, « je suis colombienne et pas canadienne du tout ». Donc, il y a une certaine instabilité parce qu'elle ne peut pas s'imaginer à cette étape d'avoir les deux types de caractéristiques, soit la culture d'origine et la
culture d'accueil.
Exactement, la nouvelle culture. Puis, elle fait face à des défis quotidiens. C'est ça qui fait en sorte que ça devient un processus qui est plus difficile à cette étape-là parce que parfois, elle a de la difficulté à trouver un logement, à trouver un emploi. Puis là, elle pourrait se dire quelque chose comme, finalement, les Canadiens, les Québécois sont pas si accueillants, sont pas si chaleureux, sont pas si ouverts que ça. Donc, elle fait face à des sentiments qui peuvent être extrêmement difficiles à vivre.
Ambivalent.
Exactement, une ambivalence. La troisième étape, La personne commence à reconnaître qu'elle peut appartenir à deux groupes. Donc, elle reconnaît qu'elle peut se sentir québécoise et qu'elle peut se sentir colombienne. Par contre, c'est comme des petits compartiments, tu sais, qu'on mm-hmm. a. C'est séparé. Il n'y a rien qui est lié ensemble. Il n'y a rien qui est vraiment intégré. Puis s'il y a des conflits, la personne n'arrive pas à les résoudre à cette étape-là. Les identités, en fait, sont extrêmement dépendantes du contexte dans lequel la personne va se trouver. Donc, je vais vous donner un exemple. Si notre Colombienne se trouve au Centre Bell, avec des milliers de spectateurs en train d'écouter un match du Canadien, elle va se sentir extrêmement québécoise à ce moment-là. Elle va peut-être même chanter des chansons, etc.
Même s'ils ne feront pas les séries.
Même s'ils ne feront pas les séries. Mais ça sera un autre sujet pour une autre chronique, oui. J'imagine. Puis, par contre, s'il se retrouve au téléphone avec sa famille colombienne ou bien dans une fête de famille à l'été, une fête d'une personne, elle va se sentir extrêmement colombienne et pas québécoise du tout. Donc, c'est vraiment séparé et ça dépend du contexte dans lequel elle se trouve. La quatrième stratégie, c'est l'étape de l'intégration. C'est celle qui mène à plus de bien-être. Donc, il existe des conflits, on reconnaît les conflits, mais on parvient à les résoudre. Donc, on arrive à reconnaître certaines similarités. Par exemple, la Colombienne pourrait se dire « Ah oui, mais les Québécois sont quand même assez ouverts parfois dans telle situation ou dans une autre situation, mais peut-être moins pour le logement, mais plus dans le milieu du travail. » Donc, elle va pouvoir voir certaines similarités, puis elle arrive à les résoudre d'une certaine façon aussi. Ou bien, elle va se créer une catégorie plus abstraite, genre dire les Colombiens et les Québécois appartiennent tous les deux à la catégorie canadien ou bien citoyen du monde. Donc, elle arrive comme ça à vivre de manière plus intégrée avec ces deux cultures. Donc, elle arrive à s'identifier à tous ces groupes en même temps. Si on reprend l'exemple du Centre Bell, puis de la fête familiale, bien, si elle va au Centre Bell, elle va se sentir quand même colombienne, même si elle est dans un contexte québécois. Fait qu'elle arrive à se sentir québécoise et colombienne dans le contexte du Centre Bell et vice-versa, si elle est dans une fête familiale avec sa famille colombienne et parle en espagnol, elle va quand même se sentir québécoise dans ce contexte-là. Puis c'est vraiment ça, l'intégration.
Ouais. Et est-ce que des études se sont penchées sur le lien entre les différentes étapes dont vous venez de nous présenter, et le bien-être?
Oui, exactement. Je vous en ai parlé au début de la chronique, puis pendant la chronique aussi. Donc, la personne, elle arrive à résoudre certains conflits, puis il y a un sentiment de cohérence qui se crée. Puis on pourrait dire que ce sentiment de cohérence-là, il y a certains chercheurs qui ont dit que c'est comme un bien-être. Et entre autres, il y a Maya Jan-Polski de l'Université Laval avec ses collègues en 2013. Elle a fait une étude qualitative, c'est-à-dire qu'elle a fait des entrevues en profondeur avec des immigrants et immigrantes de deuxième et de troisième génération. Et puis, elle a évalué ce sentiment de cohérence-là qui est associé au bien-être en lien avec les différentes étapes d'intégration. Puis finalement, elle a montré que les individus, les personnes qui avaient plus de bien-être se trouvaient dans l'étape de l'intégration. Faut bien comprendre la cohérence ou le bien-être dans cette étude-là. Si je vous donne l'exemple d'une Asiatique adolescente de 14 ans qui se fait dire constamment qu'elle est bonne en sciences et en maths, mais que finalement, elle, ce qu'elle aime puisqu'elle se sent bonne, c'est les arts, bien, il va peut-être avoir une certaine ambivalence, incohérence dans son système, dans son concept de soi. Puis souvent, ça peut être plus difficile en termes de bien-être aussi.
Alors, l'ostracisation, ce n'est pas une bonne chose.
Non, exactement, ce n'est pas une bonne chose. Puis si je peux me permettre de terminer la chronique en disant d'intégrer des nouvelles identités, ça amène un lot de défis parce que ça amène constamment des efforts de résoudre des conflits. Mais quand on prend le temps de le faire, qu'on appartienne à un groupe culturel minoritaire ou parfois un autre type d'identité, si on est homosexuel ou on change d'emploi, quand on prend le temps de bien le faire, d'essayer de résoudre les conflits qui peuvent émerger lorsqu'on change de rôle ou on change d'identité, bien, ça amène un meilleur bien-être. Là, je vous ai parlé d'une étude, mais il y en a plein d'études qui ont montré ce lien-là très clair entre l'intégration et le bien-être.
Et quelquefois, on a besoin d'aide pour arriver à ce bien-être-là.
Tout à fait.
Roxane de la Sablonnière, merci beaucoup d'être passée dans nos studios. On va se retrouver le mois prochain.
Parfait, merci beaucoup.
À bientôt.
Au revoir.